Alors, on le disait, Québec qui prolonge la pause jusqu'au 4 mai, ce qui veut dire qu'on s'attend à ce qu'on soit à partir de maintenant et jusqu'au 4 mai, peut-être dans la période la plus intense. C'est intéressant aussi de voir comment ça se passe dans les autres pays. Je pense à l'Europe également. Faire le point là, sur vaccins, médicaments, tests avec le Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, premièrement, on va regarder ensemble la fameuse courbe. Elle a l'air de quoi ce matin, la courbe?
Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sûr qu'on est encore dans notre phase d'accélération au Québec. Ça va durer encore au moins un autre, je dirais, un bon 2 semaines. Il faut savoir aussi que ces courbes-là, ce sont des modèles où on peut se tromper très souvent, mais il est clair actuellement que le nombre de cas augmente rapidement. Par contre, je vous dirais, relativement bonne nouvelle, le nombre d'hospitalisations et le nombre de gens aux soins intensifs augmente beaucoup, mais est encore, je vous dirais, absorbable par le système à l'état actuel. En réalité, il va falloir voir dans deux lundis, il y a des chances qu'on soit pas loin du sommet ou proche du sommet ou au sommet. Mais il faut pas oublier que quand on parle de sommet, après ça, il y a un plateau. C'est-à-dire, c'est pas un sommet où on atteint un pic et puis on redescend tout de suite. On atteint le sommet et puis là, on reste au sommet pendant quelques temps avant de commencer à redescendre.
Quand vous regardez la tendance, et je comprends là, qu'on est dans les projections, c'est difficile là, d'avoir une idée très claire, mais avez-vous l'impression que notre système de santé va être capable de résister?
Ben, mon impression est que globale, là, et puis je peux me tromper parce que là, vous me demandez des prédictions, mon impression globale et l'expérience qu'on a eue aussi un peu avec le H1N1, si on s'y projette, mon impression globale est que oui. Je vous dirais qu'on va devoir passer, ça va être difficile, il y aura des moments difficiles, il y aura des choix déchirants, mais j'ai l'impression qu'on va passer au travers. Mais on va passer au travers, il faut comprendre qu'il y aura plusieurs phases à cet aspect-là. Et ça dépend comment vous me dites qu'on va passer au travers. Dans la phase actuelle, qui est, je dirais, la phase défensive. On vient d'être attaqué par le virus. Notre système de santé, notre société est globalement prise d'assaut. Notre objectif, c'est de résister, de ne pas se faire submerger, de ne pas avoir trop de décès dans les centres de soins prolongés parmi nos aînés, d'essayer d'avoir des soins pour tout le monde dans les hôpitaux de soins aigus, d'essayer d'avoir de l'équipement médical pour protéger notre personnel de santé. Mais tout ça, on a des limites dans ce qu'on peut faire. On n'est pas optimal pour ce qui est capable d'avoir des tests, on n'est pas optimal en termes d'équipements médicaux, donc il y a beaucoup de choses qu'on va devoir faire. Mais c'est la période de se préparer pour la prochaine étape où c'est à nous d'aller passer à un moment donné à l'offensive, c'est-à-dire c'est à la société québécoise, puis on le voit actuellement, de s'organiser pour avoir l'équipement nécessaire, pour avoir les moyens nécessaires pour pouvoir, si vous voulez, faire refluer la vague du virus en attendant l'arrivée d'un vaccin.
Bon, en parlant de vaccins et de médicaments, si vous faisiez le point ce matin d'abord avec les vaccins, de façon réaliste, je disais qu'il y a deux vaccins là, qui semblent plus développés, ou en tout cas dans les fameuses phases plus en avance là, que d'autres. C'est quoi le portrait?
Ben, écoutez, il y a une compagnie qui nous dit qu'ils vont faire une étude de phase 1, c'est-à-dire qu'ils injectent le vaccin à des volontaires pour voir si les gens vont répondre et vont développer des anticorps. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes avec un vaccin. Il y a l'efficacité, c'est-à-dire, est-ce que je vous donne le vaccin, vous avez des anticorps, et c'est pas juste d'avoir des anticorps, c'est d'avoir des anticorps qui vont vous protéger contre le virus. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. Parce qu'on peut faire des anticorps contre un virus, mais qui vous protègent pas. Je vous donne l'exemple, le VIH. Les gens qui attrapent le virus du VIH, ils font des anticorps, mais si vous ne les traitez pas, ils ne sont pas protégés contre le virus du VIH. Donc, il faut des anticorps neutralisants. Et après ça, il faut que le vaccin soit sécuritaire, parce que si je vous donne un vaccin et que vous avez des effets secondaires terribles, ça n'aide pas non plus. Donc, pratico-pratique, je vous dirais le plus optimiste des optimistes, c'est que peut-être qu'à l'automne, on aura quelque chose, mais là encore, ce serait peu probable. Alors, moi, je vous dirais certainement quelque part en 2021, et c'est pas parce que les compagnies dans le monde entier n'essaient pas.
Bon, maintenant, pour les médicaments, il y a tout le débat autour de la chloroquine. Il arrive quoi avec ça?
Bon, alors là, ce qu'on regarde, ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat, d'abord, c'est pas juste la chloroquine, c'est ce qu'on appelle l'hydroxychloroquine, qui on va dire est de la chloroquine, plus un médicament qui s'appelle l'azithromycine. Ce qui semble démontré dans cette étude-là, et ça, c'est le grand débat qui vient de Didier Raoult en France, qui au passage est un quelqu'un de très respecté et respectable au point de vue de son bagage scientifique. C'est quelqu'un qui a publié dans le domaine des maladies infectieuses des milliers de papiers, qui est extrêmement connu. Bon, alors là, il y a tout un débat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à date? On peut dire que pour les gens en début de maladie, on se comprend là, ce qui semble peut-être avoir un effet, on ne le sait pas encore, c'est que les gens en début de maladie, quand vous leur administrez ce traitement, il semblerait qu'il y a moins de chances d'évoluer vers une forme plus sévère. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des médicaments actuellement qu'on essaie pour des gens qui sont beaucoup plus malades, aux soins intensifs, chez qui il existe ce qu'on appelle une tempête, on appelle ça immunitaire, c'est-à-dire que votre système immunitaire devient un petit peu fou. Il perd le contrôle et c'est ça qui crée des problèmes beaucoup plus que le virus à un moment donné lorsque les gens ont des poumons qui ne fonctionnent plus. Donc il y a d'autres médicaments. La troisième phase de médicaments qu'on essaie, c'est ce qu'on appelle des sérums convalescents. Donc des gens qui ont guéri. Alors s'ils ont guéri, ça veut dire que leur système immunitaire est bon, qu'ils ont réussi eux à fabriquer des anticorps qu'on appelle neutralisants. Donc c'est des gens qui, si vous voulez, ont une capacité d'avoir neutralisé le virus. Donc, on va prendre leur sang, si vous voulez, on va prendre leurs anticorps et on injecte ces anticorps à d'autres personnes en disant, ben écoutez, si ces gens-là ont guéri, ils sont capables donc d'avoir de bons anticorps. Alors, c'est là où on en est rendu actuellement, mais encore une fois, si on se projette dans le futur, il y a beaucoup de compagnies actuellement qui travaillent sur de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments qui, eux, sont ciblés sur comme activité antivirale. C'est-à-dire, les médicaments comme l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, ça ne détruit pas le virus. C'est des modulateurs de votre système immunitaire pour que vous combattiez mieux le virus. Donc, c'est quelque chose qui vous aide, mais qui ne va pas directement attaquer le virus.
Mais est-ce qu'on peut penser que dans une période de haute vague, là, de pic, on puisse utiliser tous ces médicaments que vous venez de décrire en disant on n'a peut-être pas là, la preuve ultime scientifique, mais compte tenu de ce qui se passe, en milieu hospitalier, on va l'administrer?
Ben, on l'utilise dans le cas de contexte où on essaie d'avoir des études cliniques en cours et quand on utilise ces médicaments-là, on essaie justement, d'ailleurs on le regarde par rapport à ce que nos collègues en Europe ont fait avant nous parce qu'ils ont quelques semaines d'avance et donc on a regardé ce que les Italiens, les Espagnols, les Français ont fait et donc à partir de là, on a regardé leur expérience et oui, on va les utiliser okay. Quand il faut les utiliser.
J'ai une dernière question qui m'est posée au quotidien. À quel moment je sais si je suis guéri? C'est-à-dire qu'avant, il y avait des tests. Là, je comprends qu'on n'en fait plus, là, mais les gens se disent, mais à quel moment je peux dire là, je suis guéri?
Bon, là, d'abord, on continue encore d'en faire des tests, mais quand est-ce que vous êtes guéri? À partir du moment où vous aurez complètement plus de symptômes, excepté la toux, pendant au moins 48 heures. Alors, si après 48 heures, vous ne faites plus de fièvre, et puis, donc la fièvre, c'est souvent un bon indicateur. Les gens font de la fièvre souvent pendant longtemps, 8 jours, 10 jours. Si après 48 heures, vous ne faites plus de fièvre et que vous n'êtes pas essoufflé, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. La toux, par contre, peut persister quelques semaines, mais c'est pas grave. C'est une toux qui va passer par elle-même. Donc, plus de fièvre, plus de douleur, plus d'essoufflement, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie de guérison. Complètement guéri, ben souvent ce qu'on va dire, ça veut dire que vous avez eu au moins 14 jours, vous avez fini 14 jours après le début de vos symptômes. Ça fait au moins 2-3 jours que vous ne faites plus de température. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus infectieux, par contre. Il faut faire attention, c'est deux choses différentes. Vous pourriez être guéri, c'est-à-dire que vous êtes sorti du bois, vous n'avez plus de danger, vous ne courez plus de danger. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas encore capable de transmettre le microbe à d'autres.
OK, mais il y a des gens qui me disent qu'avant, ça prenait deux tests, deux résultats négatifs et que maintenant, on en fait plus ou moins. C'est pas vrai.
On en fait moins parce qu'on est limité dans la capacité okay. des tests, okay. Mais vous avez tout à fait raison. Si vous voulez être certain, et encore, il y a des choses à s'améliorer, mais si vous voulez être certain, en effet, si on faisait deux tests à 72 heures d'intervalle où vous étiez négatif, alors là, on vous disait, vous êtes comme vacciné. En réalité, ces gens-là, et c'est important pour nous, surtout les travailleurs de la santé, parce que ces gens-là, une fois qu'ils peuvent retourner au travail, et souvent, on les met justement pour traiter les patients COVID parce qu'eux, ils sont vaccinés, si vous voulez. Ils ne risquent plus rien.
OK. Dernière question. Je sais qu'à tout le monde en parle. M. Quirillon, là, qui est le chef scientifique, parlait de tests à venir, peut-être même dans les prochaines semaines, qui seraient ultra rapides, justement, pour savoir si quelqu'un est, disons, potentiellement, oui. Pourrait avoir la COVID.
Alors, c'est des tests rapides qui arrivent, en effet, mais ça se développe. Il y a des compagnies qui développent ça parce que c'est des compagnies qui ont déjà développé des tests rapides pour d'autres choses, la grippe, d'autres virus. Et donc, c'est des tests qui, moi, je vous dirais, d'ici quelques mois, on devrait avoir ce genre de tests okay. disponibles.
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Weiss.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Dr. Carl Weiss et microbiologiste.